Chapitre 36. À travers sa combinaison de plongée, Amina Abdallah sent l'eau glaciale mordre ses pieds et ses mollets lorsqu'elle entre dans la rivière. Avec le kayak jaune citron coincé entre ses cuisses, elle essaie de trouver le bon équilibre. Il y a une demi-heure, elle a garé sa voiture sur le parking près de Brostougan et a desserré les sangles du porte-bagages. Le soleil était haut, mais une bande de neige tombée dans la nuit subsistait à l'ombre de la façade, comme une dentelle délicate. Amina a porté le kayak et tout l'équipement jusqu'à la plage de gravier, juste en dessous de la centrale hydroélectrique d'Elfkarleby. À présent, elle se prépare au départ. Les remous font dériver le kayak en plastique toujours plus vers la droite. En réalité, elle devrait être chez elle en train de cuisiner. Mais elle n'y arrive pas. Elle doit se vider la tête. Le grondement puissant des turbines de la centrale et le débit massif de l'eau résonnent à ses oreilles. Son grand frère, Ali, est revenu de Wadi Halfa. Il s'est installé chez elle, à Scutskher, et veut être traité comme un roi. Il est resté 3 ans au Soudan, où il a travaillé pour les chemins de fer, puis il s'est blessé au genou et a laissé sa femme et ses 3 enfants au pays. Maintenant, il passe ses journées sur le canapé d'Amina à regarder des chaînes arabes, le Coran à la main, un coussin sous les pieds, attendant qu'on lui serve du thé sucré entre les repas et qu'on l'appelle « Votre Excellence ». Il se plaint des injustices, adhère aux théories du complot, parle de décadence morale et répète en boucle que les autorités suédoises volent les enfants musulmans et qu'il est interdit de brûler la Torah, mais pas le Coran. Ali ne travaille pas. Alors qu'Amina, elle, a un emploi dans une crèche, nettoie des bureaux le week-end, subvient aux besoins de sa mère et de sa petite sœur, fait les courses, cuisine, garde les enfants de son oncle tous les vendredis. « Je vais te trouver un bon mari nubien », a dit Ali alors qu'elle lui servait une assiette de bouza. « Mais je ne veux pas d'homme », a-t-elle répondu. « J'ai honte de toi. Tout le monde a honte de toi. Arrête », a-t-elle murmuré en quittant la pièce. À présent, elle place la pagaie devant le cockpit, ajuste son casque, resserre la corde de remorquage autour de sa taille, puis regarde au loin l'eau qui tourbillonne vers le centre du fleuve. Amina s'est inscrite au championnat suédois de kayak cross. Si elle remporte la compétition, elle a une chance d'intégrer l'équipe nationale. Les épreuves auront lieu cet été, à Homsel. Elle ne sait même pas si elle est qualifiée pour participer. Il serait préférable qu'elle intègre un club, mais elle n'a pas le temps pour les interactions sociales. Tout ce qu'elle veut, c'est se lancer dans les rapides. Amina a appris à pagayer au lycée. Depuis, elle s'est toujours entraînée seule et n'a aucune idée de ce qu'elle vaut en championnat. Pourtant, elle rêve de gagner. Une branche d'épicéa flotte devant elle. Elle la laisse passer, puis pose ses mains en appui de part et d'autre du cockpit, se soulève, glisse les pieds à l'intérieur du kayak et se cale sur le siège. Elle utilise un modèle court avec une ligne de quille réduite et une coque en V, ce qui le rend maniable et facile à incliner pour compenser les vagues. Elle ne compte pas pagayer très loin, elle veut juste sentir la puissance des rapides, jouer avec les flips et les virages, puis travailler sa vitesse jusqu'à la plage de Kulen. Là, elle se changera et rentrera en bus pour aller récupérer sa voiture. Elle fixe la jupe, quitte la rive et pagaie tranquillement. Lorsqu'elle appuie sur la pédale droite, le gouvernail s'incline et elle s'engage dans le courant principal. Brusquement propulsée par les eaux que déverse la centrale, le kayak file comme une flèche. S'aidant de sa pagaie haute, Amina fait pivoter son buste, garde les hanches mobiles et se penche vers l'avant. Elle veut atteindre la vitesse maximale avant d'entrer dans les rapides de Klokararen. Son corps réclame de l'adrénaline. Le kayak remonte contre le vent qui souffle depuis la rive droite. Elle est forcée d'ajuster sa trajectoire avec quelques coups de pagaie. L'eau scintille d'un éclat aveuglant. Amina accélère après Notteren et aperçoit au loin le grand pont suspendu au-dessus de la rivière. Quelqu'un y a attaché une échelle de corde en métal qui disparaît dans l'eau au milieu du courant. Elle s'agite de façon étrange, comme une ligne de pêche quand le saumon mord. Amina envisage de passer à droite de l'échelle. Elle file à toute allure le long de l'île surnommée Corallen, s'approche trop près de la rive rocailleuse et a à peine le temps de voir le grand rocher sous la surface avant que sa pagaie ne heurte violemment quelque chose. Le kayak se retourne et Amina est soudain plongée dans l'eau glacée, la tête en bas dans son kayak, emportée par le courant puissant. Vue d'en dessous, la surface ressemble à du papier d'aluminium. Elle doit effectuer un escamotage avant de manquer d'air. Elle se penche en avant et appuie sa pagaie contre le flanc du kayak. Le fond de la rivière défile au-dessus d'elle, parsemé de rochers verts et d'herbes ondulantes. Les rayons du soleil percent l'eau. Elle sait qu'elle doit utiliser la force du courant pour remettre le kayak à l'endroit. Le grondement emplit ses oreilles. Amina comprend qu'elle approche du pont suspendu, tourne le haut du corps et regarde vers l'aval pour ne pas heurter l'échelle. Ses yeux la brûlent à cause du froid. Des tourbillons verts charrient des fragments de plantes et de débris. Elle fixe un tronc noir dans le fond et s'entend hurler sous l'eau. Un homme, gris, sans tête, est pendu à l'échelle. Sa taille est coincée entre deux barreaux et il tourne lentement comme une hélice. Des vertèbres sectionnées brillent au centre d'une fleur de tissu humain rose pâle. Amina dépasse le corps tournoyant. Elle contracte les abdos, balance la pagaie en quart de cercle, rompt la surface, bascule les hanches et appuie fort. Le kayak bascule et elle refait surface. La lumière l'éblouit. Elle inspire à plein poumon, se penche en arrière tous, retrouve l'équilibre et se dirige vers des eaux plus calmes, en cherchant la pompe de cale d'une main tremblante. Yona quitte le commissariat et, dans la pénombre de l'après-midi, marche sur un des sentiers asphaltés du parc Kronoberg. Aux infos, on parle de la tempête Eyjolf qui arrive de la mer de Barents et décrit une courbe abrupte au-dessus de la presqu'île de Kola, de la mer Blanche et de la mer Baltique. Mais ici, il n'y a presque pas de vent. Un homme barbu est assis dans son sac de couchage sur un banc, entouré de sacs en plastique, de boîtes de conserve et de valises crasseuses.
« Faut être un peu patient avec l'IA, » dit-il en riant d'une voix rauque.
Yuna le dépasse, bifurque sur un autre chemin et aperçoit les lumières des maisons de la Park Gatan qui scintillent d'une lueur chaude entre les branches nues des arbres. Un homme fatigué, vêtu d'un survêtement et d'un manteau d'hiver, se tient sous un réverbère avec un gros pitbull en laisse. Soudain, le chien se met à aboyer en direction de l'obscurité. Il tire si violemment sur la laisse que son maître trébuche avant de réussir à le retenir. Le molosse se dresse sur ses pattes arrière en continuant à grogner vers les ténèbres du parc. Durant l'interrogatoire de Jenny Gellenkrantz, Yuna a probablement obtenu une description de la voiture de la meurtrière. Une Opel Kadett bleu clair, rouillée, avec une galerie sur le toit et une quinzaine de sapins désodorisants suspendus au rétroviseur. Sûrement pour atténuer une odeur tenace de sang pourri, pense-t-il en montant la pente. Une fois son interrogatoire terminé, Yuna a cédé la place à Stina Linton qui s'est assise à côté de Jenny pour lui montrer un plan du parking avec la position de la Mercedes de la victime. Stina lui a demandé de montrer les emplacements de sa propre voiture et de la vieille Opel. Il est désormais possible d'isoler les traces de pneus, voire les empreintes de pas appartenant à la tueuse. C'est une percée dans l'enquête. En revanche, le message d'Erickson confirmant que le cheveu blond trouvé dans la caravane ne provient pas de Jenny est sans conteste un revers. Aussitôt sortie de la salle d'interrogatoire, Yuna s'est arrêtée dans le couloir du centre de détention pour lire le rapport d'Erickson dans son intégralité. La particularité de l'ADN mitochondrial est qu'il est transmis par l'ovule de la mère, ce qui signifie que l'ADN mitochondrial de l'enfant est une copie de celui de sa mère. Les seules modifications dans cet ADN, transmis depuis la toute première ancêtre maternelle, consistent en une longue série de mutations. Et ce sont précisément ces mutations qui sont prises en compte lors d'une identification génétique. Il s'avère que l'ADN mitochondrial du cheveu ne correspond pas à celui de la femme arrêtée et n'a donné aucun résultat ni dans le fichier national, ni dans les bases de données internationales. Yuna n'est pas du genre à se laisser gagner par la frustration. Il sait que les enquêtes prennent du temps. Elles peuvent parfois se refroidir avant que de nouveaux éléments ne viennent les relancer. Mais cette fois, il se sent tendu, car il est convaincu qu'ils ont affaire à une tueuse en série active. Le prochain meurtre aura lieu bientôt. C'est comme un feu de broussailles qui approche de la lisière de la forêt. Ils sont proches et doivent éteindre l'incendie avant qu'ils ne prennent encore des vies. Grâce au témoignage de Hugo Sand, ils ont obtenu un premier signalement de la criminelle. Une femme aux longs cheveux blonds. Ils sont en possession d'un de ses cheveux et disposent de son ADN mitochondrial. Avec les bases de données génétiques collectées par les sites de généalogie, ils pourraient peut-être identifier, voire arrêter la coupable. Mais après l'affaire pilote du double meurtre de Linköping, l'autorité de la protection de la vie privée a soutenu que l'utilisation de ces données commerciales enfreignait la loi suédoise. Jonas a traversé le parc sans s'en rendre compte, et il se retrouve déjà à la grille du vieux cimetière juif. Il dépose un petit caillou blanc parmi d'autres sur la tombe de son ami Samuel Mendel. Il ne sait plus quoi lui dire, mais reste là un moment pendant que les premiers flocons de neige tombent du ciel noir. La neige s'intensifie. Les flocons restent quelques secondes au sol avant de fondre et de disparaître. Jonas quitte le cimetière, remonte vers l'aire de jeu, regarde les jeunes jouer au basket derrière le grillage, puis il sort son téléphone personnel et appelle Agnetha Nkomo. « Oui, » répond-elle. « Bonjour, c'est encore Jonas Linna, » dit-il. « Je voulais vous demander si vous pouviez m'aider. Si je peux. » La police n'a pas le droit d'utiliser les bases de données généalogiques pour rechercher des correspondances ADN. Mais ce n'est pas illégal pour les journalistes, explique Jonas. Le ballon de basket frappe le grillage devant son visage et rebondit sur l'asphalte. Vous avez l'ADN du tueur? Demande Agnetha, stupéfaite. Avec une forte probabilité, un cheveu blond trouvé dans la caravane. Ok, waouh. Je peux le faire, dit-elle. Il n'y a qu'une seule base de données qui analyse ce type d'ADN. Je m'en occupe, et je comprends l'urgence, dit-elle. Ça l'est. Vous avez fait d'autres avancées? Nous sommes sur la piste d'une voiture suspecte, une vieille Opel. Vous pensez toujours que le mobile est le vol? Ce n'est pas le véritable mobile, selon moi. Ça ne peut pas expliquer le degré de violence. Les vols font probablement partie d'un moteur plus complexe. Après avoir partagé les éléments de l'enquête avec Agnetha, Jonas termine la conversation et lui envoie un email crypté avec le profil ADN du cheveu blond. Il soupire et prend la direction du commissariat quand son téléphone professionnel sonne. « Linna, » répond-il. « Jaromir Prospal, commissaire au district de Norduppland, » dit une voix sombre. « Je crois que nous avons quelque chose ici qui pourrait vous intéresser. »